Bienvenue dans le podcast Sur la Terre des Hommes. Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au Sur la Terre des Hommes Podcast et sur Instagram au Sur la Terre des Hommes Podcast. Si vous possédez un iPhone, prenez une minute pour nous laisser un avis. Ainsi, vous allez faire grimper le podcast dans le moteur de recherche. Finalement, si vous voulez encourager Sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. patreon.com. Recherchez Sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Cet épisode de Sur la Terre des Hommes est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons éco-énergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons Nouveau Climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 207 de Sur la Terre des Hommes, le retour de mes fidèles acolytes, Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
Salut Jérémy, comme je disais en entrée de podcast avant qu'on tombe en onde. Aïe aïe aïe, c'est une grosse rentrée, hein? C'est des grosses journées, fait qu'on est tous dans un mood fatigué mais motivé.
Ouais, ça fesse, hein?
Aïe, 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 j'avais oublié, j'ai un petit mal de gorge, moi, on dirait que le fait de ne pas parler autant, la gueule m'a pas arrêté de la journée, fait qu'on dirait que ça griche un petit peu.
Ah, ok, d'accord. Moi, j'ai comme des malaises gastriques depuis hier, c'est vraiment étrange. Puis ça a commencé, tu sais, on commence le jour 1 à l'école, bien évidemment, logiquement. Et puis, mon après-midi libre était cet après-midi, alors j'en ai profité pour avoir des malaises chez moi, voilà. Professeur Roussel, comment allez-vous?
Bonsoir, messieurs, collègues, ça va très bien, très bien. À part que, enfin, moi, je n'ai pas commencé encore, je commence la semaine prochaine.
OK. Mais
là, surtout, je suis dans la période là, où tu dis, bon, OK, l'été est en train de se finir, je n'ai pas réussi à faire la moitié des choses que je voulais faire au cours de l'été, puis hop, on reprend du collier. C'est comme disait Charlie Brown, hein, tu cours après l'été, puis l'hiver te rattrape.
Mais il faut dire, Stéphane, que tu as travaillé tout l'été, toi.
Ben, l'été, c'est un temps d'écriture pour les chercheurs, pour les profs. Ouais. Tu sais, tu as toujours l'espoir de dire je vais finir mon livre pour cet été, ça va être fait, ça va être réglé. Ben, tu es obligé d'écrire à l'éditeur le 25 août en disant malheureusement, ça ne se matérialisera pas comme je le voulais. Bon. Mais bon, mais parlant de livre, vous, votre livre, les copies papier, les versions.
Ça s'en vient.
Le livre Sur la Terre des Hommes, il est disponible en version électronique, qui est la version papier, elle est.
Sûrement, comme on a. Ben, si parce que là, l'automne arrive, les gens vont recommencer à écouter des podcasts. Souvent, l'été, on arrête d'écouter des podcasts parce qu'on écoute souvent des podcasts en auto, soit. C'est ça, surtout ceux qui font du voyagement. Alors, on a fait un live, je crois, d'une demi-heure, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Où est-ce qu'on parlait de notre livre? Alors, ceux qui n'ont pas entendu notre annonce, on peut vous la résumer en 10 secondes. Vous pouvez vous procurer notre livre version électronique. Okay? Je le répète, version électronique sur le site des éditions Dernier Mot. Alors, éditionsderniermot.com. Et puis, voilà. Et puis, la version papier va sortir avant Noël, je l'espère, très, très...
Et pour l'avoir lu, je le dis aussi, il est très intéressant, il est très éclaté, c'est-à-dire vous allez voir les sujets de Jay puis Joe passer, que ce soit en histoire, que ce soit sur des questions sociales actuelles, que ce soit sur le conspirationnisme, les affaires bizarres, là, où c'est agréable à lire parce que tu peux lire un chapitre, le laisser de côté pendant 3 jours, puis ensuite partir sur un autre sujet. Ensuite,
c'est plein de sujets, c'est ça.
C'est le fun pour ça.
Ouais.
C'est comme une salade de fruits. Il y en a pour tous les goûts.
Ah oui, il y a des cerises, des bananes, des kiwis. Il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Et puis, je le rappelle, c'est le tome 1. Et puis, le tome 2, bien, Stéphane, ce n'est pas seulement le préambule que tu vas faire, notre préface, mais tu vas peut-être y participer, n'est-ce pas?
Absolument. Avec grand plaisir.
Ça serait vraiment super.
Tu laisses place à la fin entre la couverture et la dernière page.
Alors, comme vous le remarquez, chers abonnés des pages de Sur la Terre des Hommes et de Jonathan le Prof, on est live partout cette fois-ci. Alors, on reprend un peu nos habitudes. Et puis, aussi sur Twitch et puis YouTube. Alors, on est vraiment
worldwide.
Exactement. Alors, choisissez votre plateforme et puis allez-y. Et puis, on vous invite en même temps. Oui, c'est ça. Je veux vous inviter en même temps pour aller vous abonner. Si vous êtes des Twitchers, des Twitchers, allez vous abonner à notre chaîne Twitch. Juste à rechercher SLTDH sur Twitch et puis vous allez nous trouver. Je veux essayer de pousser Twitch au maximum. Peut-être qu'un jour, on va être juste sur YouTube et puis Twitch, qui sait. Alors, allez vous abonner sur Twitch si vous connaissez. Et puis, si vous ne connaissez pas, c'est sûr que Facebook et puis YouTube. Alors, vas-y, mon cher.
Je veux dire aux gens, Jay, qu'on est aussi live à tous les mardis jusqu'à la fameuse soirée électorale. Oui. Donc, toutes les semaines, vous allez pouvoir avoir notre binette sympathique, faire un petit peu l'analyse de ce qui s'est passé dans l'actualité concernant la campagne électorale. Et on va aussi avoir le post-mortem le lendemain de l'élection. Donc, un gros mois de septembre à venir pour les auditeurs de Sur la Terre des Hommes.
Il va y avoir beaucoup de stock. Comme tu as dit, la campagne électorale, on va la suivre. Peut-être aussi des épisodes historiques ou d'actualité, on ne sait jamais, qui vont arriver pendant la campagne électorale. Si je pense, par exemple, à la semaine prochaine, je vais recevoir. Et puis, si vous voulez... Si vous voulez vous joindre à nous, messieurs, vous pouvez. On va parler de Woodstock 99.
Avec qui tu fais ça?
Avec Anthony D.L. Paumé-Pomerleau.
Ben oui, c'est sûr que je vais être là. J'ai capoté sur le documentaire. J'étais tellement déçu quand j'étais ado d'avoir manqué ce show-là jusqu'à temps que je voie le résultat. Ouais. J'étais pas si déçu que ça, finalement.
C'est pareil pour moi, sauf que moi, j'étais déçu d'avoir raté celui de 69.
Mais là, on s'entend que c'est... carrément là, deux univers différents.
Ah non,
mais
c'est
le même gars
qui
était clairement pas tout là quand il a fait le deuxième. Faut vraiment écouter le documentaire sur Netflix. C'est hallucinant de voir à quel point le capitalisme musical a fait la pire catastrophe de l'histoire de l'industrie.
Ça a été vraiment triste. Et puis, on va en parler justement la semaine prochaine avec Anthony Pomerleau. Ceux qui sont des habitués de Sur la Terre des Hommes, vous connaissez Anthony. Vous connaissez son amour, ses connaissances encyclopédiques de la musique. Et puis, il va nous faire un résumé, un topo de ce fiasco de Woodstock 99 qui était, je crois, à Rome, aux États-Unis, c'est ça, Roma?
Il y a quelqu'un que je connais qui était là.
Ah ouais?
Si je vais essayer de la contacter, ça pourrait être pas pire. Je ne garantis rien, mais si on peut avoir quelqu'un qui était là, ça serait cool aussi.
Ouais, ce serait vraiment malade. Regarde dans tes contacts, mon cher Jonathan Saint-Prof. Alors, voilà. Alors, voilà. Ça va ressembler à ça pour le mois de septembre. Et puis, qui sait, là, je vous parle de Woodstock 99, mais aussi peut-être d'autres épisodes qui vont émerger au cours du mois de septembre. Les gars, avant de commencer cette revue, je veux pas dire de la première semaine, parce que ça fait trois jours, c'est commencé, il n'y a pas grand-chose.
En fait, non, c'est pas vrai, la campagne a commencé en mai l'année passée.
Ah oui, ben, exactement.
La pré-campagne, ça fait des siècles et des siècles, on dirait que
ben,
ça...
Justement, joue. Joe, on va en parler de cette pré-campagne. Je crois que depuis que la pandémie est démarrée, depuis que la pandémie est là... Tous les partis de l'opposition ont eu le temps de se préparer pour cette élection de 2022. Et puis, je veux en parler tout à l'heure de cette préparation des autres partis d'opposition. Mais avant, je veux qu'on parle de la nouvelle du jour. Mikhail Gorbatchev, qui est décédé à l'âge de 91 ans aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent qui est Mikhail Gorbatchev, ben,
Je vais trouver une photo pour l'afficher.
Oui, c'est ça. Ben, écoutez, on en parle depuis l'heure du souper, un peu en fin d'après-midi. Mikhail Gorbatchev a été le dernier secrétaire général slash président, on va dire, de l'URSS. Un grand homme quand même. C'est rare que je veux dire ça d'un soviétique, d'un secrétaire général de l'URSS, mais quelqu'un qui a essayé de réformer son pays, quelqu'un qui a essayé d'amener la démocratie, une plus grande démocratie avec la glasnost et puis bien sûr une réforme totale de l'économie soviétique avec la perestroïka. Joe, vas-y, garde, je sais que tu parles de Mikhail Gorbatchev dans tes cours. Peux-tu nous en dire plus qui était cet homme et pourquoi que l'histoire, si on veut, va se rappeler de Mikhail Gorbatchev?
En fait, l'histoire va se rappeler de lui parce que c'est le dernier, tout simplement. C'est lui qui était en poste quand le mur de Berlin est tombé. C'est aussi lui qui était en poste pour la catastrophe de Tchernobyl. Et dans le fond, on lui donne la responsabilité, on lui donne dans le fond le titre de celui qui a dissous l'URSS, mais dans les faits, c'est pas tout à fait ça. C'est que les républiques soviétiques autour de la Russie se sont mis à abandonner l'URSS une après l'autre et s'est retrouvé dans le fond avec plus d'Union soviétique. Donc, on l'a comme un peu tassé plutôt que lui qui l'a dissous de lui-même. Et depuis ce temps-là, il a toujours été quelqu'un de, on va dire, de réformateur. Et vous voyez sûrement la photo à l'écran. Jamais, probablement, qu'en 91, quand l'URSS s'est effondré, qu'il s'attendait à ce que ce soit la personne à sa gauche qui le remplace et qui devienne le pire despote du 20e siècle. Le 21e siècle, excusez.
Exact. Stéphane?
De comprendre l'importance de ce personnage-là, cette rare catégorie d'individus a changé le cours des choses. La dernière décennie de son histoire était sur le point de s'effondrer au plan économique. C'était pourri. Et c'est pour ça que Gorbatchev, à l'occasion d'un voyage au Canada, d'ailleurs, en fait, il était secrétaire à l'agriculture, il a visité le Canada à ce titre-là. Et c'est là que les idées auraient germé, notamment sur la nécessité de faire des réformes pour tenter de sauver l'économie de l'Union soviétique. Est-ce que l'économie de l'Union soviétique se serait effondrée avec ou sans lui? Probablement. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il a géré les choses, il a mené le bateau de manière à ce que l'effondrement se fasse de manière pacifique. Parce que l'histoire de l'Union soviétique, ça a été, dès qu'il y a eu une révolte quelque part, à l'intérieur ou à l'extérieur, ça a été généralement écrasé dans le sang ou à tout le moins écrasé par la force. Ce que Gorbatchev ne fera pas. Et c'était déjà un premier étonnement. C'est pour ça qu'il y a déjà en 89, au moment de la chute du mur de Berlin, puis de la chute des régimes communistes en Europe de l'Est, puis la chute, finalement, ou le départ des républiques soviétiques, de l'Union soviétique, on se disait non, c'est pas. Habituellement, c'est pas comme ça que les Soviétiques réagissent. Ils vont réagir dans la violence. Mm-hmm. Ce que Gorbatchev n'a pas fait. Et les Occidentaux, les Russes ne reconnaissent pas ce rôle-là. Mais Gorbatchev, qui a reçu le prix Nobel de la paix, le mérite pour ça. Exact. Parce qu'il a su amener le navire quand même.
La transition, on pourrait dire, peut-être.
La transition était finalement un échec parce que l'économie, ça a pris 20 ans, l'économie de la Russie à s'en remettre.
Les Russes n'étaient pas rendus là, je crois. T'amènes un Gorbatchev dans les années 2000 et puis ça aurait été. Il aurait été aimé premièrement par son peuple parce qu'il faut dire qu'en Russie, il y a une large partie de la population qui déteste. OK, et puis là, je ne surveille pas mes mots, mais qui déteste Mikhail Gorbatchev.
Parce que c'est lui qui a causé la honte nationale en faisant disparaître le grand empire.
Et puis, un des derniers défilés, je crois, un des derniers défilés de militaires qu'il y a sur la Place Rouge, eh bien, Mikhail Gorbatchev, où est-ce que normalement le secrétaire général, accompagné de sa garde rapprochée, sont sur le balcon du Kremlin. Je crois que c'était la dernière fois, Joe, peut-être corrige-moi, mais il s'est fait huer et puis il a été obligé de partir du balcon parce que ça commençait un peu à...
Ça sentait la soupe chaude, comme on dit.
Exactement, exactement. Il faut dire que Mikhail Gorbatchev, c'est le secrétaire général de l'URSS qui a géré la crise de Tchernobyl.
Peut-être... On lui en a voulu beaucoup parce qu'il a vraiment mal géré la crise et c'est un peu ce qui l'a exposé publiquement et mondialement parce que la crise de Tchernobyl, ceux qui ont écouté la série, là, je fais une référence parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a lancé dans le chat, c'est catastrophique de la façon que ça a été géré et incroyable. C'est lui qui a porté le blâme parce que c'est lui ultimement qui prenait les décisions.
Exactement. Mais aussi, donc, il y avait
les Ukrainiens l'aiment pas vraiment, on va le dire comme ça.
Ouais, exactement. Et puis il y avait le système quand même, le système soviétique, le système de secret. Tout était secret. Je veux pas dire qu'il est blanc comme neige, Gorbatchev. Mais ça aidait pas. Ça aidait pas.
Hey, Jay, on se fait remettre à notre place, par exemple. Il y a des gens qui se demandent pourquoi qu'on parle pas d'élection. Fait qu'on enchaîne.
Oui, alors, je viens de changer d'idée. Ce n'est pas Québec 2022, mais bien hommage à Mikhail Gorbatchev.
Non, c'est pour ça que les followers baissent de plus en plus.
Ouais, c'est ça. Non, c'était vraiment la nouvelle du jour. Il fallait en parler. Et peut-être même, qui sait, pendant l'automne, pendant l'hiver, faire un épisode sur le règne quand même assez court de Mikhail Gorbatchev, mais on va en parler. Hein. De 85 à 91, je crois.
Exact.
Gorbatchev. Mais voilà, c'était juste la nouvelle du jour. Maintenant, les élections.
J'ai un commentaire de Mathieu Lauzon qui nous pose la question, probablement que plusieurs se posent en ce moment. Je ne sais pas pour qui voter. Merci de m'aider. On va essayer de t'aider, Mathieu. Ouais. Ça se pourrait qu'on te mêle encore plus, c'est ça.
Et si je peux me permettre, justement, ça va répondre à Mathieu en partie. Je vais faire deux petites annonces. C'est fort possible que la grande majorité des auditrices et auditeurs connaissent déjà ce dont je vais parler. Mm-hmm. Mais d'alors, une chose qu'on peut faire, ça aide toujours, Mathieu, d'aller voir la boussole électorale de Radio-Canada. C'est un questionnaire, je pense que 26 ou 28 questions qui te permettent de te situer par rapport au programme des partis. Ouais. Alors, tu réponds ta préférence, est-ce que tu es très d'accord, très en désaccord, tu as cinq possibilités par question.
Très intéressant.
Et ça te dit, évidemment, où tu te situes sur l'échiquier politique, de quel parti tu es le plus proche et... en termes de gauche-droite aussi, un petit peu. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est sur le site de Radio-Canada, la boussole électorale.
La partage dans le chat à l'instant sur toutes nos plateformes pendant que tu parles, Stéphane.
Parfait.
Et aussi, petit clin d'œil pour vous dire, nous trois, on l'a fait, chacune notre bord aujourd'hui, avec le résultat qu'on est, voilà, exactement, on est tous au même point. Jérémy, Jonathan et moi, on se retrouve tous au même endroit, là où vous voyez Jonathan actuellement, donc qui est proche de QS et proche aussi des propositions du Parti libéral du Québec, assez éloigné du Parti conservateur et du Parti vert du Québec.
Mais ça, je pense que c'est une surprise pour personne.
Non, mais en fait, je me demande s'il n'y a pas un problème dedans, parce que nous trois, les trois, on se retrouve presque au même point.
C'est la même affaire.
Des petites variations, c'est ça.
C'est la même affaire. On est pas mal dans le même coin. Ici, mettons, entre ces deux carrés-là, on est dans cette eau-là, dans ces eaux-là. Je voulais pas la partager, parce que moi, j'ai comme la vieille mentalité judéo-chrétienne de... On dit pas pour qui qu'on vote, mais je voulais juste vous montrer.
Mais on dit pas pour qui on vote non plus, on dit où on se situe.
Mais on s'entend.
À date, je vote pour personne, fait qu'il y a personne qui m'a convaincu. Mon vote est toujours pas assuré.
Mais on s'entend que là, les gens voient la mienne, OK, c'est celle de Jay, OK, la boussole électorale. On s'entend que les abonnés se rendent compte que je ne voterai pas pour le Parti vert. C'est que sûrement Joe va nous en parler un petit peu tantôt. le parti conspirationniste du Québec et la CAQ. Ça va se tenir dans les autres. Et puis même le PLQ est quand même assez loin. Et puis le PLQ, quelle peine que je ressens en ce moment. Je suis tellement tiraillé, messieurs, on va en parler. Mais c'est ça. Dans le fond, je viens quasiment de vous dire pour qui je vote. Mais tout. Fait que ça ressemble à ça, le résultat de la boussole électorale. Joe, t'as mis le lien, hein, je crois, sur.
Oui, j'ai mis la boussole, puis je vais mettre le deuxième que Stéphane s'en va plugger à l'instant.
Oui, le deuxième aussi, deuxième instrument dont on apparemment nous trois, mais ça doit être vrai pour un grand nombre d'entre vous, qu'on se sert presque quotidiennement pour suivre la progression des choses, c'est Québec 125.
Mm-hmm. Je vais afficher à l'écran pendant que tu parles, justement, on va pouvoir starter de l'image... du son, tu sais, dans le fond, des statistiques du jour en même temps.
Ouais.
Donc, si l'élection avait lieu en ce moment, ça aurait l'air de ça.
Québec 125 est une agrégation de sondages, c'est-à-dire que la personne qui s'en occupe,
Philippe J. Fournier, Fournier,
ouais. Philippe Fournier prend tous les sondages, puis il fait, si vous voulez, il les agrège ou il les met ensemble pour dégager des tendances. Là, les tendances sont assez faciles à dégager depuis un bout de temps, vous allez me dire, mais avec ce site-là, ce qui est bien, c'est que surtout en période électorale, il est mis très régulièrement à jour, presque sur une base quotidienne.
C'est de mémoire, c'est 10 maisons de sondage différentes, puis ils sont pas cotés pareil. Il y en a qui sont plus à droite, plus à gauche.
Exactement.
C'est vraiment très, très, très varié. Fait que c'est une espèce de synthèse de tout ce qui se passe. Puis à la dernière élection fédérale, puis à la dernière élection américaine, il a été dans le mille à presque 9 fois sur 10. Mm-hmm. Donc, il y a une bonne fiabilité aussi derrière ça. C'est pas juste des prédictions, c'est vraiment des projections et c'est quand même une nuance importante.
Et puis même pour le fédéral, les présidentielles américaines, Québec 125 s'en occupe. Et puis moi, c'est vraiment rendu un de mes sites fétiches, Québec 125. À chaque élection, je regarde ça tous les jours.
Et toujours, juste pour clore sur ce point-là, des fois aussi, si vous voulez faire un vote stratégique, vous vous demandez de quoi ça a l'air dans votre circonscription, il y a un onglet « Circonscription » où vous avez la liste, donc des, si tu descends encore, Jay, on a la liste de toutes les circonscriptions du Québec, et vous pouvez cliquer sur chacune des circonscriptions pour voir c'est quoi l'état, la projection du vote. Donc, on peut séparer. Si vous dites, ben moi, je veux être sûr je veux être sûr que telle ou telle partie ne passe pas, ben est-ce que ça peut modifier faire ce qu'on appelle un vote stratégique, là? Et vous pouvez voir l'évolution aussi, surtout pour suivre les chefs, par exemple. Est-ce que ça va bien dans leur circonscription? Par exemple, moi, je suis allé voir tantôt, puis pour Mme Anglade, ça regarde pas bien du tout.
Ah, ça n'a pas de bon sens.
Pour Legault, ça va très bien. Pour Éric Duhaime, il est nez à nez. Là, je pense que
c'est dans Chauvreau. C'est dans Chauvreau.
Donc, si vous voulez suivre cette partie-là aussi, Québec 125, qui est très convivial comme site, qui est très, très intéressant à consulter. Là. Donc, je vous le recommande. Nous vous le recommandons fortement.
C'est pas mêlant, j'ai déjà hâte à la soirée électorale. Qu'on va tenir
le 3. Mais je vous mets déjà le résultat à l'écran.
Non, ben ça va ressembler à ça. On s'entend que c'est sûr. Tu sais, François Legault va pas aller dire on est sûr de gagner, fait qu'on va faire une petite campagne tranquille. Non, il dit qu'on prend rien pour acquis.
En fait, il faudrait peut-être qu'il fasse ça et qu'il se la ferme, parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il se nuit.
C'est son pire ennemi.
Comme j'ai écrit sur la page
Comme j'ai écrit sur la page de Sur la Terre des Hommes hier, François Legault est son pire ennemi. Êtes-vous d'accord avec ça, les gars, avant qu'on commence?
100% d'accord. Bon, on pourrait commencer avec ça, en fait.
Oui.
L'excès de confiance de Frankie.
Par contre aussi, ça montre le vide un peu qu'il y a autour. Le seul qui se démarque, c'est GND, Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. Les autres ont beaucoup de difficultés à se démarquer puis à prendre leur place. Donc, Duhaime, pour d'autres raisons, là, ou parvient à le faire.
Mais Duhaime, je trouve qu'on lui donne beaucoup trop de place par rapport à son poids politique et tout ce qui va avec. Là.
C'est quelque chose
que je critique beaucoup par rapport aux journalistes. On lui en donne beaucoup trop par rapport au fait qu'il y a un député transfuge qui fait partie qui faisait partie du gouvernement à la dissolution.
Mais en même temps, il y a 15%, selon les sondages, il y a 15% des Québécois qui voteraient pour le Parti conservateur, Joe. Moi, ça me fait capoter. Là.
Ouais, c'est vraiment la pire des nouvelles dans tout ça.
On va revenir tantôt à ça,
Partie. 15%, mais en même temps, ceux qui se demandent, veux-tu juste monter un petit peu, Joe, pour qu'on voit les titres des deux tableaux? On voit projection du vote, OK? Le vote, OK? Et puis les sièges, parce que c'est pas la même chose.
Tu peux avoir 100% du vote, mais pas avoir d'élection.
Exactement. Fait que quand vous voyez que le Parti conservateur du Québec a 15% selon les sondages, je vous rappelle du 30
août. Marge d'erreur de 3%, plus ou moins.
Qui est plus ou moins, du 30 août. Et puis vous voyez à côté un siège, ben c'est à cause que. C'est ça, un siège plus ou moins 0 à 6.
Il n'était pas là à midi tantôt, fait que c'est
non, c'est
au courant de la journée. Fait
mais le problème.
Les sondages, ça.
Mais le problème du Parti conservateur, et puis peut-être pas le PQ, mais le problème des conservateurs, c'est que le vote est tellement dilué partout sur le territoire que c'est pour ça qu'il n'y aurait pas de siège.
Mais, sauf à Québec.
Sauf dans la grande région de la capitale nationale.
Ils sont absents à Montréal, ils sont concentrés essentiellement autour dans la région de Québec.
Et c'est leur problème. Ils vont faire campagne seulement à Québec, puis dans la banlieue de Québec, ils n'iront pas plus loin que ça, parce que c'est là ses seules opportunités d'avoir des sièges.
Et c'est un sérieux problème qu'ils se soient concentrés comme ça, à ce point-là, parce qu'il est concentré dans les circonscriptions où c'est la CAQ qui
est très forte.
Il y a trois circonscriptions où actuellement, les conservateurs talonnent la CAQ, c'est Beauce-Nord, Beauce-Sud puis Chauveau. Les trois seules circonscriptions qu'on voit actuellement. Là,
ben, c'est, comme dit Joe, ça ressemble beaucoup à quand Maxime Bernier était là au fédéral, là, c'est la même région, on ne se le cachera pas.
Oui, je regarde ça, ce graphique-là, puis je regarde notamment celle de droite. Legault a l'air d'être, ça a l'air d'être très confortable, mais ça ne l'est pas. Parce que, pas parce qu'il y a des chances de perdre. Actuellement, je ne veux pas
ça prendrait-tu une catastrophe mondiale?
Il y a quand même un problème. Si ce résultat-là s'avérait, si on maintient ça, puis Legault se ramasse entre, disons, 100 députés, là, entre, là, on dit entre
40 80 et 107, là, ils disent 98.
Mais qu'est-ce que tu fais avec autant de députés? Parce que passant à certains seuils, ça devient contre-productif d'avoir trop de députés. Plusieurs problèmes à ça, c'est que d'abord, tu ne peux pas distribuer des responsabilités à tout le monde, tu as trop de monde. Et donc, tu as des gens que tu es obligé de faire un arbitrage entre des gens et l'arbitrage doit se faire non seulement sur la base de la compétence, mais ça doit être aussi sur la base de régionale, avoir des gens de différentes régions, essayer d'illustrer la diversité, essayer d'illustrer la diversité de genre, le ratio homme-femme. Et tout ça, ça devient très compliqué de faire un cabinet de ministre ou même de distribuer des responsabilités secondaires. Fait que le problème, c'est quand tu as beaucoup de backbenchers comme ça ou de députés d'arrière-ban, ben il faut que tu occupes ces gens-là. Autrement, ça, et c'est arrivé assez souvent dans l'histoire canadienne, soit au fédéral ou dans les provinces, où à un moment donné, les backbenchers se disent, ben là, moi, je voudrais faire quelque chose. Je suis pas heureux ici, je suis tanné. Ben, ce que Claire Samson a fait.
Le gouvernement de Bourassa 1973.
Oui, voilà où le Trudeau 1974. Ouais. Le Trudeau père, là, j'entends, là, ici. Ouais. Donc, ces espèces de. Ça devient, à un moment donné, trop lourd. Et il n'y a plus d'avantage, je veux dire. Quand tu es rendu à 107 députés, à moins que tu en aies 40 qui démissionnent du jour au lendemain, 45 qui démissionnent du jour au lendemain, il n'y a pas de risque de perdre le pouvoir. Mm. Donc, tu sais, tant qu'à ça, 90, c'est peut-être un peu plus confortable, tu sais, parce que ça donne à la fois tu peux t'occuper de tout le monde, puis t'as moins de mécontents. L'autre chose aussi, c'est que de toute façon, ça devient. Pour les partis d'opposition, c'est important d'avoir beaucoup de députés. Mais d'avoir autant de gens que ça, c'est le problème, c'est que l'opposition va se déplacer. Elle va être soit dans la société civile, à travers les journalistes ou à travers d'autres forces politiques qui vont compenser pour le manque de partis d'opposition, soit de l'intérieur même du parti, ce qui est la pire des choses qui peut arriver.
Mais quand...
Donc, ce tableau-là, il n'est pas si extraordinaire pour François Legault, il comporte des problèmes aussi.
Exactement. C'est trop beau pour être vrai aussi en même temps. Hein.
Mais moi, ce qui
ça
me fait...
Ça peut juste descendre.
Ouais, mais qu'est-ce qui me fait plaisir? Voilà. Ce qui me fait plaisir vraiment beaucoup, okay, c'est j'en rêve la nuit, là, c'est de voir le Parti libéral comme ça s'effriter, tomber en lambeaux. Mmh. Mais en même temps, parce que le Parti libéral récolte ce qu'ils ont fait pendant l'ère Jean Charest. Et puis là, on voit. Et Philippe Couillard, on s'entend. Et puis, on voit une pauvre Dominique Anglade, OK, que je vais appeler Madame Dominique Anglade. Alors, Madame Anglade, si vous avez suivi un peu de nouvelles, on voit une pauvre Dominique Anglade qui essaie, je dis bien essaie de ramener tout ça, de repartir la machine. Puis on dirait qu'ils n'étaient pas prêts, les libéraux, pour l'élection. Malgré le fait qu'ils ont eu du temps.
En fait, c'est pas qu'ils étaient pas prêts, c'est que tout le monde a quitté le bateau avant que ça coule.
Exactement. Ben justement, hey Joe, peux-tu juste. Est-ce que je peux enlever ton tableau?
Ben oui.
OK, je vais mettre un autre tableau que j'ai préparé justement pour voir.
Pendant ce temps-là, juste un commentaire de Jonathan Pecha qui dit qu'il y a une pancarte du PCQ sur son terrain à cause de son frère dans Beauce-Nord. On le salue.
Oui, on le salue. J'avais partagé. justement à la dissolution de la Chambre, là, quand on a dissous la 42e législature du Québec. Alors, le gouvernement de François Legault, qui vient d'être dissous, eh bien, a été élu le 1er octobre 2018 sur 125 circonscriptions. Alors, pour la majorité, on va expliquer un petit peu, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale du Québec, ça va prendre 63 députés. OK? François Legault et la CAQ en avaient 76, OK, à la dissolution. Là, je ne parle pas le 1er octobre, le lendemain, je veux dire le 2 octobre. Mais quand on a dissous la Chambre dimanche dernier, la CAQ avait 76 députés, le PLQ 27, Québec solidaire 10, le Parti québécois 7, le Parti conservateur 1, mais maintenant 0 parce que Claire Samson n'est plus là. Et puis, on avait 4 indépendants, OK, au travers des années, dans les 4 dernières années, sont devenus indépendants. Et puis là, j'ai ressorti quelques statistiques, quelques fun facts, si on veut, de la dernière législature. La CAQ avait 60% des sièges disponibles dans l'Assemblée nationale. 27% des députés ont annoncé qu'ils quittaient la politique avant le début de la campagne. C'est énorme!
1 sur 3, quasiment. Majoritairement des femmes, soit dit en passant.
1 sur
5,
en fait.
1 sur 4, mais quasiment 25%. C'est énorme, là. C'est, on arrondit ça, là, justement, quasiment à 30%. On est plus proche de 30%. C'est quasiment 1 sur 3, là. C'est énorme.
Ça, on s'obstine sur des
vérités. Oui, non, c'est moins plus que 5%.
On va dire 25%.
Oh, là, je l'avais arrondi.
On va le garder.
C'est ça au montage,
Jay. Alors, pour pas... ouais, c'est, ah, ben non, on le garde. On le garde. Alors, 27% des députés, j'allais dire encore 1 sur 4, qui ont quitté la politique. Et puis, le Parti libéral, 13 élus sur les 27 ont quitté la politique. Alors, 13 de ces députés-là ont quitté son parti. Ils vont pas tenter de se faire réélire. Et puis, que dire du Parti québécois qui en reste plus gros? Il en reste plus gros.
Il va rester juste M. Bérubé en Gaspésie, ça va être pas mal ça, je pense.
Oui, ben parlons-en peut-être de prédictions, messieurs. Et puis peut-être en commentaire, ceux qui sont là avec nous, une prédiction peut-être pour cette campagne électorale. Malheureusement, moi je vais y aller en premier, et puis Joe vient de le dire, mais je crois que le Parti québécois, malheureusement, il va rester que Pascal Bérubé. Dans Matapédia.
Ouais, exactement.
Malheureusement, parce que le génie, le fin stratège qui est Paul Saint-Pierre Plamondon, hein, tout le monde va s'en faire dans son nom. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon a choisi de se présenter dans Camille Lorrain, qui est une nouvelle circonscription. C'était quoi l'ancien nom? Je ne m'en souviens plus. Mais c'est sur l'île de Montréal. Jamais, je crois. Faut pas dire jamais, là, mais ça va être dur pour Paul Saint-Pierre Plamondon de se faire élire sur l'île. Là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, ça va avec le restant des décisions du PQ dans les dernières années. C'est pas fort la tonne, malheureusement, pour les gens du PQ. Mais en même temps, la dérive identitaire du PQ pour se distancer de la CAQ leur a fait mal, je crois, parce que les gens ont décidé de se rallier à François Legault plutôt que d'aller avec le jeune qui propose des choses un peu absurdes, comme le fameux emoji du Québec qui a fait perdre une tonne de crédibilité aux yeux de la population. Fait qu'il a essayé de se la jouer jeune et cool, mais ça y a vraiment ennui plus que d'autres choses parce que il a perdu de la pertinence. Puis moi, en partant, j'ai beaucoup de difficultés avec ce personnage-là qui chiale contre les écoles anglophones quand il a fait toute son école en anglais puis qui est allé en Angleterre pour étudier. Donc, je trouve que c'est quand même assez...
Ouais, un paradoxe maintenant, c'est qu'on a un des pires coups du Parti québécois qui a commencé à amorcer son déclin, la dernière phase du déclin, donc en 2014, la Charte des valeurs. Son promoteur, M. Drainville, est maintenant avec la CAQ.
Exactement.
Ben, il va aller se battre pour la loi 21.
La prédiction que je ferais, c'est effectivement le Parti québécois va être à toute fin pratique rayé de la carte, que ce soit un ou trois députés, s'ils ont, ça va être... Et peut-être qu'on va avoir ce que je pourrais appeler un scénario lisé inversé. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Jean-François Lisée avait tenté une fusion avec la Québec solidaire. Ça avait fait toute une chicane. Lisée était sorti justement pour condamner l'attitude des dirigeants de Québec solidaire. dans un probablement avec ceux qui restent du Parti québécois, ce serait aussi d'être aspiré vers Québec solidaire, à moins qu'ils fassent ce que Drainville a fait, puis se retourner vers la CAQ.
J'adore le commentaire. Vas-y, Joe, le commentaire de Kevin Provençal, vas-y.
Paul Saint-Pierre Plamondon est un populisme sans charisme, sans assurance ou trace de quelconque flair politique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de le décrire.
Il est pas sexy. Non, mais tu sais, comme chef d'État, il est pas premier ministrable.
Il Paul est Saint-Pierre, en plus, je trouve.
Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas. Il n'a pas la stature d'un chef d'État, je crois.
Effectivement. Effectivement. Ouais.
En termes d'image, là, si on s'arrête sur l'image.
Ah, son image, non, ça marche pas. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, puis je reviens là-dessus, la pandémie, oui, c'est vrai que pendant la pandémie, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Que François Legault dirigeait, oui, par décret sanitaire.
Pendant deux ans, quand même.
Pendant deux ans. Mais pendant ces deux ans-là, qu'est-ce qu'ils ont fait?
À l'heure des charges, à l'heure des défense, je veux dire, ils ont beaucoup moins de visibilité. Plusieurs d'entre eux ont dit on va collaborer avec le gouvernement, on va faire comme un gouvernement d'union nationale au sens traditionnel du
terme. Je comprends que la visibilité, tu peux pas en avoir. Tu peux pas commencer à faire des pubs en 2020-2021 en pleine pandémie. C'est
puis
pas
en
ça.
Même temps, t'as François Legault à tous les jours qui fait des conférences de presse. Toute l'attention médiatique est sur lui. Il y a eu une infopub de deux ans, mine de rien. Tout le monde
c'est
a entendu
sûr.
François parler avec les gens de la CAQ, avec Fitzgibbon, avec les autres, tu sais. C'est sûr et certain que les gens vont penser à lui. Là.
Mais c'est sûr, mais moi, je veux dire, de se préparer au jour 1 de la campagne. On sait que l'élection va être en octobre 2022. Mm-hmm. C'est certain. Il n'y a pas personne autour de Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dit « Garde, faudrait que tu aies l'air moins du gars qui va se faire élire par sa classe. »
Oui, c'est une question d'expérience aussi.
Il y a de l'air plus d'un gars qui veut se faire élire, genre président de sa classe, que premier ministre du Québec. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a aucune crédibilité. Benoît Viel, oui, la balance des sièges du PQ ira à qui, selon toi?
Ça va split entre la CAQ et Québec solidaire, dépendamment du niveau de la gauche qui était dans ce coin-là, à mon avis.
C'est dans la région de Québec que ça va probablement aller à la CAQ, mais je pense qu'il y a quand même quelques comtés où ça pourrait passer, ça pourrait bénéficier à Québec solidaire.
Oui. Exactement.
Parce que le Parti québécois était justement cette alliance étrange, c'est de souverainistes de droite et de gauche. Et maintenant, avec le retour ou la plus grande apparence de ce clivage gauche-droite au Québec, tu vois effectivement des partis qui étaient des espèces d'alliances comme celle-là se dissolvent, puis ceux qui le composent retournent vers des formations qui représentent plus leur position de gauche ou de droite. Mm.
On a parlé de Paul Saint-Pierre Plamondon. Parlons des autres oppositions, OK? Tantôt, justement, je disais, préparez-vous, vous savez que l'élection s'en vient. Dominique Andelade, il n'y a pas personne qui a dit dans les semaines précédentes, dans les dernières semaines, c'est-à-dire, il faudrait que le premier jour, quand tu vas sortir du boss, on soit une gang en arrière de toi.
Je pense qu'ils ont eu de la misère à l'avoir, cette gang-là. Puis la machine libérale, comme on l'appelle, manque de gaz. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de candidats, ils n'ont pas de momentum. Là, c'est la catastrophe totale. Ouais. Il y en a qui disaient dans les commentaires tantôt, que j'étais d'accord, Dominique Anglade est sacrifiée présentement.
Ouais.
C'est
absolument
la chef de transition entre Philippe Couillard et la prochaine génération. Puis là, il est 9h07. On est le 30 août, je vous prédis que Dominique Anglade démissionne la soirée de l'élection puis est remplacé par Marois Risky, la députée de Saint-Laurent, qui va probablement prendre le lead.
Okay. Parce qu'elle est très flamboyante, mais elle a des positions qui sont aux antipodes de la base du parti. Parce que d'abord, le Parti libéral...
Je pense qu'il est dû pour une refonte de fond en comble, de toute façon.
Ouais. Parce qu'il y a deux pôles très solides, le Parti libéral. Et naturellement, tout le côté anglophone. D'ailleurs, on regarde les comptes. Si vous regardez dans Québec 125, les comtés libéraux solides, ceux qui ne changeront très certainement pas demain, c'est tous des comtés de l'Est de Montréal ou de Laval.
De l'Ouest.
De l'Ouest de Montréal, merci. Ça, c'est la première base. La deuxième base, ça a été beaucoup plus ce qu'on serait tenté d'appeler la haute bourgeoisie, ou en tout cas la partie la plus fortunée de la société, souvent dans le monde des affaires, et qui vont le soutenir le parti, pas tellement à coup de vote au-delà des leurs qui accouent avec de l'argent ou avec des coups de main comme ceux-là, ce qui est de plus en plus difficile à faire. C'est ce qui a coulé, c'est ce qui colle à la peau de Charrette puis Couillard jusqu'à un certain point. Mais ces deux bases-là, au moins, ils les conservent. J'ai l'impression que le Parti libéral, il n'est pas tuable à cause de ça.
Mais la communauté d'affaires, OK, quand on parle justement de la Chambre de commerce de Montréal, etc., avec une coalition Avenir Québec aussi forte,
ils ne seraient pas tentés
justement de dire, regarde, on va dire, là, fuck le Parti libéral, on s'en va vers le pouvoir, on s'en va
à la CAQ. C'est ce qui arrive en partie.
Ils ne le disent pas officiellement, par exemple.
La CAQ n'a pas encore atteint, si tu veux, le seuil.
Ils n'ont pas traversé le 4-5-0 non plus, là, ils ne sont pas sur l'île.
Ouais. C'est ça, ils n'ont pas encore, si tu veux, les grandes institutions derrière eux encore. Ils sont encore probablement trop petite bourgeoisie. Partie des régions. Parce qu'il était populiste jusqu'à certains points.
Il l'est encore.
Ouais.
Je vais offrir un chèque de 400$ si je vote pour quelqu'un. Mm-hmm. J'appelle ça du pur populisme.
Absolument. Mm. Parlons justement, on n'a pas encore parlé de François Legault. On a parlé de Dominique Andelade, de Paul Saint-Pierre Plamondon. François Legault, comment le trouvez-vous en ce début de campagne? Vous le sentez-vous frais, ravigoré, en forme?
Trop confiant, gaffeur, maladroit, gênant.
Gênant, oui, mais justement, comme tu l'as dit, gaffeur, François Legault, ça, c'est ça, à toutes les campagnes électorales, il y a au moins une frasque.
Parce que Legault est beaucoup mieux pour attaquer, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il est plus habile quand c'est dans le rôle de celui qui, tu sais, qui monte au créneau.
Le chien enragé, là, François Legault du PQ, mettons.
Alors que quand c'est sur la défensive, où il doit réagir aux autres, ou ceux, il réagit mal.
Il n'a pas l'air sincère non plus.
Il n'est pas dans son rôle qui serait son rôle naturel. Et là, j'ai l'impression que je serais bien embêté d'être à sa place aussi. Qu'est-ce que tu fais dans une situation où tu es actuellement? Parce que, comme tu as dit tantôt, Joe, tu as tout à fait raison, ils ne peuvent que descendre. Ils ont fait le plein. Et donc, l'idée, c'est de tolérer une certaine descente, mais il ne faut pas que ça commence à devenir une avalanche. Donc, c'est pour ça que je le sens maladroit, je le sens peut-être un peu trop prudent. Et aussi, ce qui est pas clair pour moi, c'est que maintenant, la CAQ, qu'est-ce qu'elle offre? C'est-à-dire, c'est quoi la niche qu'elle occupe pour... qu'est-ce qu'elle donne aux gens? Tu sais, sa clientèle traditionnelle, en fait, traditionnelle pour son histoire, là, mais tu sais, c'est les familles, c'est les régions, comme tu le disais, Joe. Tu sais, c'est cette clientèle-là qui n'est pas la moins fortunée de la société, ni la plus fortunée. C'est ce qu'on appelle la classe moyenne, au sens où Harper, d'ailleurs, Stephen Harper aussi jouait sur ce terrain-là. Mm. Qu'est-ce qu'il leur propose actuellement? C'est pas si clair que ça. Son programme, il n'y a rien qui m'a collé dans la mémoire en consultant son programme. Mm.
On a un commentaire de Martine Morin qui dit « Je pense qu'il est fatigué. Le sentez-vous fatigué? Déjà usé par le pouvoir après juste 4 ans. On parle pas d'un gouvernement que ça fait 9 ans. Là, un Jean Charest en 2012 que tu voyais qu'il était usé, fatigué à corde.
Oui, mais c'est le gouvernement de la pandémie aussi. C'est vrai que ça a dû être fatigué un petit peu. Je suis d'accord avec qu'il doit être fatigué. Là. Pas 2 jours du pouvoir, fatigué probablement d'avoir été pompé. La pression qu'il a dû avoir sur lui pendant au moins la première année de la pandémie, là, tant qu'on ne savait pas du tout où ça allait. Mm-hmm. Son coup de dire « je mets le Québec sur pause », c'était... Puis de gérer ça par la suite, ça n'a pas dû être facile, ça n'a pas dû être évident.
Non, absolument pas. Mm. Continuons, messieurs. Allons avec Québec solidaire, avec Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Tantôt, je parlais de préparation en vue de la campagne électorale. Je sens qu'ils sont... la machine solidaire est huilée. La machine solidaire, je la sens presque prête à former l'opposition officielle avec un certain nombre de députés. Pensez-vous que Québec solidaire, c'est la seule alternative à la CAQ, la seule opposition viable pour la CAQ, ou sinon on se retrouve avec un parti libéral ou Parti québécois, mais on s'entend que Parti québécois est en train de mourir, littéralement.
Mais en fait, c'est que ça serait un gouvernement de droite avec un parti d'opposition de droite. Il y a juste Québec solidaire qui pourrait amener un côté plus à gauche dans ce gouvernement-là. Parce que si on. Un scénario catastrophe que le PCQ, exemple, devient opposition officielle, c'est la droite et la droite qui dirigent. Ou si on a un gouvernement minoritaire, ce qui m'étonnerait aussi, et que c'est le PCQ qui a la balance du pouvoir, c'est la droite au pouvoir. Donc, ça amène une dynamique complètement différente. Donc, Québec solidaire va peut-être aller chercher le vote de ceux qui veulent pas ce gouvernement de droite qui se dessine, parce qu'on se le cachera pas, la CAQ, même s'ils se disent de centre pragmatique, là, c'est un gouvernement de droite populiste. Juste un peu moins que celui du PCQ.
Mmh. Alors, le Parti québécois, sa composante de droite identitaire, en fait, peut-être que la chance de Québec solidaire, c'est d'occuper un terrain qui seul peut l'occuper. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué tous les deux, quand on a présenté tantôt la boussole électorale, puis on vous disait, les trois s'est ramassé presque exactement à la même intersection. Moi, dans mon cas, quand mes résultats sont sortis, je suis à 71% d'accord. En fait, je suis à 71% au Parti libéral et 70% par rapport au Québec solidaire. C'est-à-dire que mes réponses sont un poil plus proches du programme du Parti libéral que de Québec solidaire. Ce qui me frappait là-dedans, c'est qu'il y a quand même beaucoup de points apparemment communs entre les deux, entre le Québec solidaire et le Parti libéral. J'ai l'impression que le Parti libéral peut-être est capable d'aller chercher une partie de ce morceau de gâteau-là. Mais ce que ça cache, et là, la boussole ne nous montre pas ça, ce que ça cache, c'est que les deux arrivent à des résultats ou des positions semblables pour des raisons totalement différentes. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas le même chemin, mais ils arrivent à une position semblable. Et vous avez raison quand vous dites que le Parti libéral demeure un parti de droite. Avec des comment tu t'appelais,
Marois
Risky, merci. Vois-tu, là, t'as un parti libéral qui serait capable d'aller gratter pas mal plus sur sa gauche. Et là, ce serait le paradoxe de voir effectivement le parti.
Mais en même temps, ils n'auront peut-être pas le choix. Ça va être là, la refonte d'un parti. Ça, pour eux, c'est la meilleure des choses parce que les années Couillard et de Jean Charest ont tué le Parti libéral. Là, ça le confirme, on le voit en ce moment. Un peu comme le Parti québécois a été achevé par Jean-François Lisée puis Pierre-Carl Péladeau.
Moi, je dirais que le gros défi de Québec solidaire dans ces élections-là actuellement ici, c'est de montrer qu'ils sont, pour utiliser le mot de René Lévesque, là, ils ne sont pas un accident de parcours. C'est pas comme la vague orange au fédéral
ou la DQ en 2007, je pense.
Oui, exactement, c'est ça. C'est pas ce qui va être apporté par Ange Lassac.
C'est pas un vote de contestation, c'est un vote éclairé dans ce sens-là.
Je pense que oui, mais c'est à eux maintenant de cristalliser ça et de s'imposer comme une force qui va demeurer, et non pas juste comme un bump sur la route.
Comment voyez-vous Québec solidaire à l'issue de cette campagne électorale qu'on met de
députés? Moi, je fais la prédiction qu'ils vont exactement être au même endroit à la fin de l'élection. Ils feront pas de gain, mais ils perdront pas rien non plus, à mon avis.
Okay. À mon sens, ils vont laisser quelques députés.
Ah oui?
Oui, je pense que oui. J'ai regardé les chiffres encore là, aujourd'hui. Là,
à moins d'une campagne électorale incroyable de la part de Gabriel Nadeau-Dubois et de Manon Massé. Hein?
Mais vous savez, ce ne serait pas une défaite en soi. Qu'ils perdent, vois-tu, qu'ils passent de ils sont à combien actuellement? Ils sont à 15?
11.
C'est ça, oui, ils ont réussi à passer un devant le Parti québécois. Qui passe de 11 à 7, ça ne changerait pas grand-chose, c'est-à-dire en termes de visibilité puis de continuité des trucs. Ce serait juste dommage. Alors, la seule chose qu'ils peuvent viser actuellement, c'est former l'opposition officielle si le vote libéral s'effondre complètement et s'ils en récoltent une partie. Mais ça, c'est la seule chose qu'ils peuvent viser. Marquer, être l'opposition officielle, ça leur donnerait énormément d'avantages, c'est-à-dire plus de budget de recherche, beaucoup plus de visibilité. Et Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé savent comment l'utiliser, ce temps-là. Donc, ce serait. Mais je pense pas que ce soit à leur portée actuellement dans l'état des choses. Je pense que
les libéraux vont rester une opposition très, très faible.
Ils vont rester assez forts pour empêcher justement le Québec solidaire d'occuper cette position-là. Et Québec solidaire, à moins peut-être de faire des gains inattendu au cours de la campagne électorale. Ils ont
beaucoup de difficultés à sortir des grands centres urbains. Là. C'est le centre-ville de Québec, le centre-ville de Montréal, le centre-ville de Sherbrooke, Rouyn-Noranda.
De toute façon, leur enjeu, pour moi, ce que je pense, c'est que l'enjeu de la campagne pour eux, c'est de durer. De montrer qu'ils sont capables. Ils restent là, ils sont là pour rester.
C'était pas un feu de paille.
Avant de passer à Éric Duhem, le préféré de mes deux acolytes, je vais vous demander, les abonnés, ceux qui sont là en ce moment, là, okay, qui nous regardent live sur toutes les pages, que ce soit Sur la Terre des Hommes, podcast, que ce soit Jonathan, le prof, notre Twitch, notre chaîne YouTube, je vous demande de préparer vos questions. Avez-vous une question pour nous ou bien un commentaire que vous voulez vraiment passer? Nous allons ouvrir le premier Agora. Ça va être le deuxième parce qu'on en a fait un avec Martin Godette la dernière fois. On va ouvrir l'Agora. Alors, on va lire des commentaires, mais surtout, on veut des questions. Alors, préparez des questions. Là, on va regarder ça ensemble. Éric Duhem, messieurs, le Parti conservateur, pensez-vous, moi j'ai l'impression qu'il va passer. Pensez-vous qu'il va réussir lui-même à se faire élire?
Présentement, c'est 50-50. Chauvreau, Beauce-Nord, Beauce-Sud sont à 50-50. C'est 50-50. Trois possibilités de députés pour Éric Duhem, ce qui est quand même beaucoup.
Oui.
L'enjeu pour Duhem, lui, il est plus de dire d'avoir le maximum de votes. Parce que le maximum de votes signifie que tes budgets aussi, combien la Direction générale des élections va te donner sur, comme ton budget de base de parti politique. Et naturellement, ça se va assez lié au nombre de votes. Et ça lui donnerait un peu plus de coups d'effrange pour tenter de bâtir ce parti-là. Mais à moyen terme, et c'est probablement là l'écueil le plus grand pour lui, que ce soit un ou trois députés qui passent ou zéro, c'est que ce qui m'a frappé, puis là-dessus, je suis d'accord avec le commentateur de Radio-Canada, Michel Auger, qui dit, ben tu regardes, à part l'opposition aux mesures sanitaires, le reste du programme, les six engagements qu'ils ont pris,
c'est
tout des vieux trucs. Tu sais, quand il dit, ben là, on va obliger les enfants à faire une demi-heure d'éducation physique par jour à l'école. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal de voir Duhem dire qu'il va obliger quelqu'un à faire quelque chose.
Quand il fait un paquet par jour.
Non. Quand tu prends la liberté à tout prix puis que le gouvernement n'a pas d'affaire à te dire quoi faire pour ta santé, là. Mais t'es forcé, là, t'es bon, bref. je me rappelle que ça avait déjà été évoqué dans les années 80. 70, c'est...
Ben moi, je pense qu'ils ont pris le vieux programme d'Adrien Arcan. Pas Adrien Arcan, excusez, je me suis trompé. Adrien Pouliot. Petit lapsus, Adrien Pouliot. Ils ont marqué pandémie par-dessus, puis c'est exactement le même programme qu'il y avait.
Parce que là, ce que ça montre, c'est un peu ce qu'on dit depuis des mois, c'est qu'ils carburent à la colère des gens. Et c'est là-dessus. S'il n'y a rien d'autre, c'est cru. C'est la colère, c'est dire liberté... sans qu'on sache trop ce que ça veut dire à part...
Dans le fond, c'est un vote de contestation contre Legault. C'est ça son objectif. Vous êtes fâché contre Legault, votez pour moi. C'est ça son message.
Mais là aussi, c'est parce qu'en fait, tu sais, je sais que l'autre thèse, c'est qu'ils disent qu'il y a des gens qui c'est juste par ambition personnelle puis que lui veut pouvoir être député puis se la couler douce pendant 4 ans, être une plante verte, là, comme disait Claire Samson. J'espère... qui va trouver d'autres moyens de se désennuyer s'il est passé 4 ans comme député indépendant, parce qu'avec 3 députés, vous n'êtes pas un parti politique reconnu, vous êtes des indépendants. Et vous n'avez pas de budget de recherche, vous avez pour vous poser une question une fois par mois, quand ça va bien, tu sais, à part peut-être avoir l'attention des journalistes à l'extérieur de l'Assemblée nationale, vous pouvez, il y a très peu de comités sur lesquels vous pouvez siéger. Puis si vous n'êtes pas fin avec les partis d'opposition et le parti gouvernemental, ben ils vont vous envoyer sur un comité qui aura pas, tu sais, qui est tout à fait insignifiant. Donc, les possibilités d'intervention de visibilité, quand tu es tout seul à l'Assemblée nationale ou tu es juste 2-3, le temps est long en calvaire. Et je pense que quand Claire Samson dit qu'elle a été une plante verte, ben elle n'a jamais été aussi une plante verte que depuis qu'elle a lâché la CAQ, ça doit être encore pire. Là, c'est sûr qu'il n'y a rien à faire.
Exactement.
Si tu ne t'occupes pas de tes électeurs,
chose que clairement elle n'a pas faite selon bien des sources que j'avais dans son comté.
Ce que j'ai entendu aussi.
Exact. J'ouvre l'agora, messieurs.
Oui, on terminera avec ça.
On va terminer avec ça. Si vous avez des questions, là, j'en ai deux. OK, j'en ai deux. Alors,
Oh, il y a même un graphique qui a changé en arrière.
Oui, oui. Alors, c'est un agora. C'est un agora, voilà. On a deux questions. Et puis, pour penser à des questions, amenez vos questions. La première de Cécile Le Caron qui dit « Ma question, est-ce que Éric Duhaime est saint d'esprit? »
Il est très saint d'esprit. Ouais. Très intelligent. Il est très cohérent aussi avec lui-même. Parce que si on veut catégoriser Duhaime sur le spectre idéologique, il appartient à ce qu'on appelle les libertariens. Les libertariens, il y a les libertariens de droite et les libertariens de gauche, mais lui, c'est un libertarien de droite. Et sa principale motivation ou le cœur de la pensée libertarienne, c'est de dire le gouvernement doit se mêler le moins possible des choses de la société et de l'économie. Moins d'impôts possibles parce que ça fausse le marché, le jeu de l'économie. Moins de réglementation possible. Et c'est de dire que tout dans la société fonctionne autour de l'individu. Que si on laisse les individus libres d'agir comme ils le veulent, ben ils vont travailler pour le mieux de la société. Une idée que je partage absolument pas. Mais c'est ça la pensée libertarienne. Et il est très cohérent dans la mesure où il a toujours avancé ces idées-là, puis elles ressortent encore aujourd'hui. Et cette pensée libertarienne, c'est ce qui peut les amener justement à faire des alliances tactiques avec les complotistes. Moi, je me suis déjà fait attaquer publiquement dans la presse parce que j'ai dit qu'il y avait une alliance entre les complotistes puis les libertariens. Il y en a une assez claire, c'est-à-dire tu joues sur le mot « liberté », qui résonne d'un sens dans l'autre, et tu dis, les libertariens peuvent dire à ceux qui sont brimés par les mesures sanitaires qu'eux sont pour la liberté. Là, actuellement, ils jouent vraiment une stratégie de libertarien de dire, je vais aller chercher tous les gens qui sont contre le gouvernement, qui sont contre les interventions gouvernementales, qui sont contre la manière dont le gouvernement gère la société, puis on va les mobiliser pour un agenda qu'il ne dit pas nécessairement. Parce que son agenda libertarien, on peut le voir, mais en filigrane, il n'est pas aussi explicite.
Non, il ne dira pas. C'est sûr qu'il ne dira pas. Mais
il va faire peur au monde.
Ouais.
Exactement.
Parce que c'est ça, oui, c'est la privatisation de la santé. Déjà, il y en a un bout qui est là-dessus. Parce que la privatisation de la santé, c'est que le gouvernement doit se retirer du domaine, le plus possible, du domaine de la santé.
Lui, il doit se retirer de partout. Il doit se retirer pour baisser les taxes, pour qu'il y ait moins de services, puis t'en aies plus dans tes poches.
Ouais. Sauf dans tout ce qui est maintien de l'ordre.
Oui, exactement.
Parce qu'il faut protéger le marché.
Le parti de la loi et l'ordre.
Il faut protéger le marché. Il faut que le marché puisse fonctionner sans qu'il y ait des récalcitrants ou qu'il y ait des gens qui abusent du marché.
Une autre question de Marie-Ève Duclos qui dit « Allez-vous parler des propositions où vous allez seulement faire les gérants d'estrade sur les sondages? » Mais c'est que ma chère Marie-Ève, ça fait 3 jours que ça a commencé. On va parler des propositions dans une semaine.
On a quand même un rendez-vous par semaine jusqu'à l'élection.
Ouais, c'est
on
ça.
On va s'en garder aussi pour mardi prochain.
Ouais, exactement.
Mais elle n'a pas tort, ça. Oui, Marie-Ève n'a pas tort, parce qu'on aurait pu dire, comme il y a des questions aujourd'hui, moi, qui sont sorties. Par exemple, le débat est parti sur un truc un peu bizarre qui s'appelle le fond des générations. A priori, ça nous dit tout quelque chose. T'sais, on peut figurer qu'est-ce que c'est que... Mais quand tu te mets à creuser un petit peu et dire, OK, c'est quoi le fond des générations? C'est quoi les positions? Par exemple, beaucoup de commentateurs aujourd'hui disaient qu'ils étaient très étonnés de voir Legault changer de position là-dessus, alors qu'il avait dit l'inverse il y a 10 jours.
Surtout que la majorité de la CAQ faisait partie du regroupement qui ont été pour ça dans les années 90,
2000-2006.
Et pourquoi tout le monde était étonné de voir que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, était pour, puis était tout à fait d'accord pour cesser d'y contribuer, en tout cas pour piger dedans?
C'est un enjeu
qui est intéressant, ça aussi, mais il faut l'expliquer. Parce que le fonds de génération, a priori, ça ne dit pas grand-chose à tout le monde, mais on peut l'interpréter d'une manière...
On pourrait le simplifier très simplement. On met de l'argent de côté pour demain. C'est en gros, c'est un peu
ça. Pour payer la dette du Québec.
Pour payer la dette, pas pour n'importe quoi, c'est pour payer la dette.
Exactement.
C'est ça que je dis, la dette qui s'élève à plus de
300
millions.
En fait, c'est qu'on fait fructifier de l'argent pour payer notre carte de crédit avec après.
Parce que c'est plus payant de faire fructifier de l'argent que de rembourser.
Parce que l'argument...
Mais là-dessus, voyez-vous, je suis d'accord avec Marie-Ève qu'on pourrait... Effectivement, on va être amené à le faire.
On pourrait le faire de manière
plus systématique, de prendre sur un domaine, que ce soit l'environnement, que ce soit la justice, que ce soit un autre, puis dire, ben OK, contre-position. Puis déjà, la boussole électorale peut quelques secteurs d'enjeux comme ça dont on pourrait. Et s'il y a des tendances qui se dessinent justement chez dans l'auditoire, on va dire qu'il y a plus d'intérêt, par exemple, pour les questions de démocratie, ou il y a plus d'intérêt pour les questions d'économie, ben, nous allons nous faire plaisir d'aller de ce côté-là. Ben, moi, j'aimerais ça, bien.
On est là pour vous répondre. On ne vous donnera pas la réponse de pour qui voter, mais on va vous donner assez d'éléments pour que vous soyez capable de le faire de façon éclairée.
Ouais, parce qu'avant de vous dire pour qui voter, on va commencer par nous-mêmes décider pour qui on vote.
Probablement, je vais décider dans l'isoloir comme à chaque fois. J'ai plus de difficultés à voter au provincial qu'au fédéral, puis je ne sais pas pourquoi.
Ah oui?
Ouais, au fédéral, je suis pas mal toujours assez bien aligné, puis au provincial, j'ai toujours de la difficulté à faire mon choix.
Francis Nau, un de nos vénérables patrons, messieurs, qui dit « Pourquoi les Québécois sont enclins à voter pour la CAQ alors que ce parti nie tous les problèmes de société actuels, santé, éducation, environnement, logement, inflation? » C'est vrai. « Tout ce qu'il propose, c'est de lancer de l'argent aux papeteries minières et construction. » J'adore cette question-là.
J'ai une très bonne réponse pour toi, Francis. Ça a été montré dans Québec 125 que c'est générationnel. Les 55 ans et plus qui sont en majorité au Québec votent pour la CAQ, donc sont enclins à voter pour l'immédiat, pas pour demain.
Exact.
On a aussi vu que, ça c'est quand même particulier, parce que les 24-54 hommes blancs québécois votent PCQ majoritairement, et les femmes, puis les 24 ans et moins, votent QS majoritairement. Donc, on voit que vraiment, c'est pas des idées, c'est vraiment des tranches d'âge puis des générations qui s'affrontent. Donc, on voit aussi un peu de quoi ça a l'air. La Coalition Avenir Québec, c'est un parti qui présente des gens plus âgés que les autres. On peut le voir aussi avec les candidats qui sont présentés. Donc, ça a peut-être aussi un lien avec ça.
Je dirais aussi que une des qualités que je peux reconnaître à Legault, c'est d'être très bon dans du « just enough ». C'est-à-dire d'en donner juste, poudrer juste un petit peu. « Oh oui, on fait des mesures d'environnement. Oh oui, on fait quelque chose pour le logement. Oh oui, on va faire quelque chose pour l'inflation, vous envoyez un chèque. » Mais c'est juste le minimum pour être capable de dire que tu fais quelque chose dans ce domaine-là.
On l'a vu avec la police, le 300, c'est quoi, 350 millions qu'on va donner à... à la ville de, ben pas à la ville de Montréal, mais pour recruter, dans le fond, plus de police pour Montréal. On voit, c'est action-réaction. Là. Une autre question. Hey, c'est bon, vous m'en donnez des bonnes. Philippe Robitaille, pensez-vous que M. Legault aurait perdu plus la face s'il avait eu à répondre à tout ce qu'il a fait pendant la pandémie, s'il n'avait pas étiré l'état d'urgence? Là, je l'ai comme corrigé en même temps, excusez-moi.
Ce serait la faute des partis d'opposition de ne pas l'avoir fait.
En même temps, l'Assemblée nationale était fermée.
Oui, mais c'est est-ce que maintenant, parce que c'est ce que Duhaime cherche à continuer à amener ce débat-là, mais est-ce qu'on peut longtemps, oui, on peut le faire, effectivement, ça s'est déjà fait dans l'histoire, c'est-à-dire que tu peux reprocher compenser un gouvernement, même si les circonstances ont totalement changé. C'est possible, effectivement. Tu peux essayer de faire du millage en disant que regardez votre gestion de la pandémie, il est temps de rendre des comptes, la question de la gestion par décret, la question du confinement, du deuxième confinement, est-ce que là, il n'est pas temps de répondre. Mais je trouve ça significatif que les trois partis d'opposition, eux ont choisi de pas ou peu ou pas aller sur ce terrain-là, probablement parce qu'ils sentent que c'est pas vendeur et je pense pas, moi non plus, il me semble que je sens pas tellement d'amertume dans la société canadienne québécoise que dans la société canadienne-anglaise. Ouais. Il me semble qu'il y a plus de ressentiment chez les anglophones dans l'Ouest en particulier qu'il y a de ressentiment dans la société québécoise. Je pense que la réponse à la question, ce serait que la société en général reconnaît qu'il y a eu des erreurs, mais elle est prête à reconnaître des circonstances atténuantes. Donc, OK, on tourne la page et on va sur quelque chose d'autre.
Marie-Ève Duclos encore qui demande « La réforme du mode de scrutin serait-elle abordée dans cette campagne? » Tu veux pas? Non?
Le Québec solidaire devrait l'aborder. C'est le seul que je pense qu'il devrait le faire.
C'est eux qui auraient pris naturellement. Sa
Mais Legault, naturellement, ayant mis aux poubelles son projet de réforme du mode de scrutin, ben, c'est sûr qu'il ne voudra pas retourner. Pas plus que Justin Trudeau, d'ailleurs, qui avait
Mais c'est un classique. Chose, hein? Tous les partis d'opposition sont pour la mode de scrutin jusqu'à temps qu'ils réussissent à gagner par le proportionnel à un tour, dans le fond. Tu sais.
Ouais, c'est une des choses.
Uninominale, excusez.
Et c'est parce que le deuxième problème qui suit, c'est OK, d'accord, on le change, puis là, tu te mets à regarder les options. Et il y en a plusieurs qui ont été proposés, puis il y a des gens. L'idée, c'est que j'ai l'impression que ça doit pas venir des partis politiques. Il va falloir que la réforme du mode de scrutin soit prise en charge par la société civile, par des gens de la société civile, par des gens qui ont une crédibilité, puis qui vont dire, ben là, maintenant, il faut absolument faire quelque chose. C'est que ça devient.
En fait, pareil, ça soit écrit dans une constitution québécoise.
Ouais, ben là, écoute, tu viens de multiplier le problème par 10, là, c'est par 100, là.
Là, il y a excusez les gars, mais il y a beaucoup de questions. On va en prendre
juste. Un dernier petit blitz maintenant.
Ouais. On va en prendre deux dernières. Hey, merci en passant. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Là.
Ben, c'est bon, ça. Ben,
la prochaine fois.
Ouais, pour la prochaine fois, on va garder un bon 20 minutes pour les questions à la fin. On va en prendre deux dernières. Joe, t'en as ciblé deux, je crois. Je te laisse aller. Je vois Vincent Bergeron. Oui,
ouais, Vincent Bergeron qui nous demande, est-ce que le Parti conservateur du Québec peut survivre à une débâcle? S'il n'est pas capable de rien faire là, il ne pourra pas rien faire plus tard parce que là, il y a la seule munition possible, la pandémie, s'il n'est pas capable de capitaliser sur la haine des gens envers François Legault, envers la CAQ. C'est terminé pour eux autres.
Je le crois aussi parce que le reste de leur programme sonne tellement creux. Là. Les propositions qui avancent là, sont vides et ne sont pas mobilisatrices. Fait que pour être un parti politique qui a du succès, il faut au moins que tu aies une cause. Puis le problème de Duhaime, c'est sa cause. Et je peux un autre commentaire aussi, c'est que l'électorat de Duhaime, en tout cas tel qu'il était il y a un an, en mai-juin 2021, alors qu'il était à 8-9% dans les sondages, c'était révélateur, c'était révélé par le rapport de la Chaire sur la prévention de la radicalisation et de la violence là, à Newbrook. Donc, dans leur rapport sur l'état du conspirationnisme au Québec, ils ont ouvert qu'un électeur sur deux de Duhaime, au moment où ils font leur sondage, au début de l'été 2021, un électeur sur deux est d'accord avec des énoncés, avec une majorité d'énoncés conspirationnistes. Donc ça veut dire qu'un électorat qui va te créer et qui veut entendre des affaires bizarres et que tu es obligé de lui donner des affaires bizarres pour le conserver là.
J'aimerais la semaine prochaine, là, Stéphane, j'aimerais que tu nous parles justement de cette mouvance-là qu'on connaît depuis 2 ans, parce que nous, dans Sur la Terre des Hommes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je sais que tu suis ça avec attention depuis, je pense, les tout débuts, depuis le début de la pandémie. J'aimerais que tu t'exposes un petit peu plus, que tu nous expliques plus le lien entre le Parti conservateur et ses idées complotistes-là, que ce soit les supporters. Pas d'en faire tout l'épisode, mais au moins expliquer c'est quoi un peu.
OK, un peu dans le sens de ce que je faisais tantôt avec le libertarianisme.
Oui, exactement.
On
va quitter bientôt, là, mais on prend une dernière question. Est-ce qu'on y va avec Jonathan Pelcha, Joe, que tu as marqué?
Ben, c'était pas une question, c'était un commentaire, puis ça va en même temps amener une deuxième question. Fait que je vais amener le commentaire et je vais répondre. Dans le fond, lui dit c'est un ancien péquiste, mais qui est tombé dans les bras de la CAQ parce qu'il est dans Beauce-Nord. Avec lui, dans le fond, ça va être pour voter pour le moindre mal entre la CAQ puis le PCQ. Je pense que Jonathan fait le choix de la CAQ. Et il y avait justement un commentaire qu'il faut que je retrouve par rapport à ça. Mélissa Frappier qui nous disait « Pensez-vous que plusieurs vont voter CAQ pour être contre Duhaime et vice-versa? » C'est exactement ce qui va se passer.
J'hésiterai pas. Puis maintenant qu'on a des par comté, c'est encore plus facile de le faire. C'est en allant sur Québec 125 puis en voyant dire, ben, effectivement, dans certaines circonscriptions. Là, on parle de Duhaime, mais ça pourrait être vrai pour quelqu'un pourrait dire, je veux surtout pas que Québec solidaire passe. Donc, c'est qui le deuxième qui est capable peut-être de battre Québec solidaire? Ben là, avec des projections par comté, par circonscription, ben, c'est possible de le faire. Et je pense que oui. Que plusieurs personnes vont le faire. Mais très souvent, ça arrive très souvent dans les élections, ça, je veux dire, des gens où on me dit, moi, n'importe qui sauf Trudeau, fait que je vais voter pour Harper ou je vais voter pour O'Toole ou pour le dernier. Je vais voter pour les conservateurs ou encore, tu sais, je veux pas que ce soit les libéraux qui passent à Québec, donc je vais aller voter PQ. Ça s'est vu très, très souvent. C'est une réaction qui me semble courante.
Les gars, merci beaucoup pour cette première, hein, ce premier épisode de notre couverture, si je peux dire, notre très humble couverture de la campagne électorale de Québec 2022. Merci d'avoir passé votre soirée avec moi, messieurs. Ça a été très agréable.
Merci beaucoup toujours de cette occasion-là. Merci à toutes et à tous. Puis, oui. C'est ça l'idée, vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec maximiser ce temps-là de discussion, de questions, puis peut-être de spotter aussi quelques enjeux sur lesquels on peut décortiquer un petit peu de temps en temps la position, surtout.
Oui. Parce que là,
c'est une bonne idée. Parce que les gens ont l'air d'avoir beaucoup de questions. Fait que ça nous aide. On n'a même pas besoin de faire de pacing. Dans le fond, on pourrait juste prendre des questions, puis ça pourrait être ça aussi.
Oui, exactement. Exactement. Ben justement, merci. Je veux en profiter pour remercier tous ceux et celles qui se sont présentés pour ce premier épisode de Québec 2022 de Sur la Terre des Hommes. Vous étiez quand même beaucoup. On a atteint un pas pire chiffre tout à l'heure. On vous donne rendez-vous mardi prochain, le 6 septembre, OK? La même heure. Pour ceux qui écoutent un premier live de Sur la Terre des Hommes avec Jonathan Saint-Prof, dit Lepierre, bien sûr. C'est pas mal tout à 20h30 qu'on fait nos lives, OK?
Mais ouais, c'est l'heure qui en fait, c'est l'heure où il y a le plus de gens connectés sur Facebook. C'est stratégique aussi.
Ouais, mais moi, c'est plus l'heure où est-ce que mon petit dort. Fait que c'est pour ça que je suis.
Aussi.
Alors, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là. On vous donne rendez-vous mardi prochain, le 6 septembre. Merci aux abonnés. Ben, juste pour dire, ceux qui écoutent pour la première fois, Sur la Terre des Hommes podcast, ça dit c'est un podcast, un balado. Vous pouvez aller vous abonner soit sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ou sur notre chaîne YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons, hein, les patrons, ceux qui donnent 2, 5, 10, 20 $ par mois. Alors les curieux, nos curieux, les stagiaires, historiens, nos érudits et puis notre orateur, construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda. Pour rejoindre les patrons, les membres Patreon, c'est le patreon.com/SLTDH. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Eh bien, des chroniques de radio que je fais toutes les semaines, que ça va recommencer cette semaine, justement. Des anciennes chroniques aussi de radio de Joe, hein, au FM 93, notamment l'été dernier, pas cet été, mais l'autre d'avant, mais qui sont encore excellentes, mon cher Jonathan Saint-Prof.
Ils ont bien vieilli. Hein?
Ils ont très bien vieilli. C'est comme du bon vin, ton stock. C'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Eh bien, les épisodes avant tout le monde. Alors, quand c'est pas live devant
hey, c'est
le
des
monde,
archives et des archives. Il y a plein d'affaires qui sont pas disponibles nulle part.
Il y a vraiment du stock. Okay? Il y a vraiment du stock là-dessus. Alors, on vous encourage. Puis en plus, ça nous encourage, nous, à faire du contenu, à nous présenter le soir comme ça, à prendre nos soirées pour venir discuter avec vous. Mais en même temps, sachez que ça nous fait extrêmement plaisir. Alors, il y a aussi le fait d'être Patreon. C'est aussi très plaisant. Alors, patreon.com/SLTDH. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mot. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page de campagne électorale de Sur la Terre des Hommes.